Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Jusqu'à midi, on est ensemble avec Sarah Pitkowski, Fred Le Canu, Simon Dutin et Cédric Emmons. Ce matin, dans un instant, les GG sur le buzzer, un sujet qui vous divise, les amis. Vous savez que les stars du catch américain sont en France ce week-end. Je disais, ça commençait à Lyon hier, salle pleine. Est-ce que les catcheurs sont des sportifs? Ça vous fait déjà sourire. Venez participer.
Levez les yeux au ciel.
Au 32-16, si vous êtes déjà passé par-dessus la troisième corde, ou venez parler avec nous.
Un bar, oui.
Attention, c'est la troisième heure, c'est pas la troisième mi-temps.
Ah, pardon, je comprends. Dès que j'entends troisième, moi, je suis focus.
Vous pouvez participer également à l'émission sur le WhatsApp au 06 12 424 424 pour nous laisser des messages. D'ailleurs, j'ai Poitou qui m'envoie un message. Ils sont où, Marshall et Truchot? Les gars, c'est le week-end. Les grandes gueules normales, c'est du lundi au vendredi. Le week-end, c'est les grandes
Donc,
gueules.
Donc, ça veut
sport.
Dire que nous, on est anormal comme grande gueule?
Je sais pas.
On n'est pas totalement.
Tu veux qu'on en parle dans le vestiaire? Grande gueule classique. Tu veux que je te dise classique? Excuse-moi, je suis désolé si je t'ai touché. Ça.
Ouais, ça me va bien qu'on soit différent.
Voilà.
On a un petit truc en plus à notre.
Ça, c'est l'attitude.
Avec remarque une, quoi.
En fin d'émission, je vous rappelle, venez jouer avec vos GG dans les jeux du sport. Ce week-end, vous pouvez remporter une enceinte portable Mino 10 de Lexon. C'est pratique, elle flotte. Même si c'est la fin des vacances, vous pouvez quand même toujours l'amener dans votre bain, par exemple, si vous n'êtes pas à la plage ou à la piscine, pour participer et remporter votre enceinte. Appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Mais tout de suite, les GG, ça, on va jouer tout à l'heure. Mais d'abord, on va ouvrir la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Vous en avez l'habitude maintenant, c'est un endroit où on partage sur vos expériences, aussi pour comprendre un peu plus un fait d'actualité. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de Caroline Garcia, qui a mis un terme à sa carrière cette semaine à l'US Open, à 31 ans. La joueuse de tennis française, gagnante du Masters notamment dans sa carrière, raccroche à un jeune âge. Si Caroline s'est réconciliée avec son sport sur la dernière ligne droite, elle racontait ceci cette semaine. L'année dernière, je la cite, « J'ai arrêté en pensant que je détestais le tennis et que ça ne m'a avait apporté que des choses négatives. J'étais persuadé que je ne voudrais plus jamais toucher une raquette. » Les mots sont forts. Alors, elle dit que depuis, quand même, elle a retrouvé un petit peu, avec son mari notamment, l'amour de ce sport. Mais les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on comprenne avec vous. Peut-on détester son sport et le pratiquer au haut niveau? Peut-on détester son sport et le pratiquer au haut niveau? Cédric Amand, je voudrais commencer avec toi.
Il ne faut pas confondre détester le sport ou son sport et le haut niveau. Je pense que moment donné dans une carrière, moi je l'ai vécu, tu as tellement de contraintes que tu as plus envie de les supporter entre le rythme de l'entraînement, métro, boulot, dodo, tu te lèves, la passion est plus là. Et je crois que quand justement cette passion elle est plus là, ben t'as plus envie de faire les efforts, et quand tu fais plus d'efforts, t'es décroché et tu te remets en question. T'es proche, pas du burn-out, mais de la perte de motivation, et ce qui amène toutes ces questions qui sont négatives, plus envie de pratiquer de sport, plus envie de faire les efforts. Donc oui, moi ça m'est arrivé, sorti de la Coupe du Monde 2007, un an, deux ans après, plus envie d'aller à l'entraînement, détester toutes ces contraintes qu'il y avait, et pendant deux ans, c'est l'errance. Alors tu tiens parce que t'es sous contrat, tu tiens parce que t'es père de famille et tu dois assurer la partie financière de tes proches, mais le plaisir il est plus là, et puis quand t'as plus de plaisir, ça sert à rien de continuer. Donc s'arrêter, continuer, et puis si t'as ton entourage qui te permet de rallumer la lumière, tu peux renaître de tes cendres, mais c'est pas illogique. Ça arrive bien plus qu'on ne le pense. Je peux la comprendre, hein. Après, pour être préservé de ça, il faut savoir se réinventer, changer son entourage, casser sa routine. Mais oui, j'ai pas détesté, le mot est fort, mais eu ras-le-bol du rugby, oui.
Oui, mais Enfin, t'avais quand même bien rempli la cheminée avec les trophées,
mais tu vois, mais justement,
frigo,
ouais, mais c'est justement
les souvenirs. T'avais évolué au plus haut niveau. Quand t'as plus rien à aller chercher, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a encore des objectifs.
C'est plusieurs mentales. Aller chercher, quand ça vient pas, ça t'use parce que tu vois pas le bout du tunnel. La lumière, elle arrive jamais. Alors, je te rejoins. J'ai eu la chance d'être dans des groupes où on a réussi à gagner. Mais quand t'as plus faim, qu'il y a plus rien. La motivation, la fraîcheur, il n'y a rien. Hein.
Ce qui est compliqué, tu vois, c'est très souvent, toi, les sportifs de haut niveau, quand tu leur donnes le micro, tu leur dis quel conseil vous pouvez donner aux gamins et tout ça. Ils disent toujours, il faut qu'ils prennent du plaisir. Bon, ça d'accord, sur la construction, et c'est là où je rejoins Cédric et Sarah qui sont à côté, qui, comme moi, ont fait du sport de haut niveau. Au départ, normalement, tu es construit sur la notion de plaisir.
Moi, je m'inscris vraiment en faux. C'est que les motivations pour lesquelles on commence un sport et on se lance dans le haut niveau sont tellement diverses.
Ben oui,
en fait, les raisons pour lesquelles on le déteste à la fin sont souvent à creuser pour lesquelles les motivations qui ont fait qu'on s'y est mis.
Ouais, tu joues pour ça, toi, pour tes parents, parce que c'est ça. Pourquoi?
Tu te construis sur un plaisir originel et parfois original, mais t'aimes ton truc, t'aimes marquer Hippon, t'aimes mettre une flèche dans la cible, t'aimes le revers, t'aimes le truc. Et après, t'aimes l'incarnation de la réussite. Parce que tu le fais souvent. Donc, t'es valorisé, on te trouve sympa, on te trouve beau. Ça, c'est la base. Donc, déjà, si t'es pas dans cette base-là, tu peux pas aimer ton sport. Parce que faire du haut niveau, si t'as pas ça dès le départ, alors là, c'est une torture. Mais tu te construis sur du positif, sur une sensation que t'aimes bien, voilà. Mais après, tu bascules dans ce que disait Cédric. Le haut niveau, c'est-à-dire rémunération, pression, médiatisation, échec. Parce qu'attends, des gens qui gagnent beaucoup, il y en a quelques-uns, les grands champions. Mais gagner tous les week-ends, être la star, il y en a pas. C'est super dur, le haut niveau. Donc, à un moment donné, il y a deux mondes différents. Et Caroline Garcia, pour revenir sur ce sujet-là, je pense que ce qu'elle a détesté, c'est l'obligation de résultat. Le sport et l'obligation de résultat, c'est deux univers différents. Ça,
mais t'as tout à fait raison.
Je pense que nous, on est dans une génération, on a commencé parce qu'on était passionnés. Aujourd'hui, nos motivations.
Et c'était pas l'oseille.
Pas tout le monde dans le même panier.
C'était pas forcément l'argent.
Moi, j'ai pas été passionnée par le tennis. Hein. Moi, c'était un moyen.
Ouais.
C'était un moyen d'une petite fille qui est pas très bien dans ses pompes. J'étais frêle et en fait le tennis, ça me permettait d'éviter d'aller aux anniversaires parce que je me sentais pas. Parce que je savais pas bien où trouver ma place et donc le sport individuel fait que j'avais pas d'effort à faire de communication vers l'extérieur puisqu'en fait j'étais dans un sport individuel.
T'aimais jouer, Sarah?
Non, j'aimais la compétition. Tu m'aurais mis un autre sport.
Mais moi, c'est exactement pareil.
Pas passionné par le tennis. Plus qu'autre chose, en fait.
Sans jugement, c'est inconcevable. Du moins, si la passion, elle est pas là. Et c'est pas un jugement.
Mais c'est pour ça que j'ai arrêté.
La chose est de l'autre côté de la table. Je sens qu'elle monte sur ses pieds là, les
passions. Non, mais je vais t'en donner. Dans le tennis, il y a plein d'histoires. Tu le disais, Agassi. Il détestait le tennis.
Exact. Tu vois, quand on prend les Serena Williams, c'est le projet du père.
Projet du père. Après, c'est pour ça que je dis, en fait, les motivations pour lesquelles on s'y met, les raisons, elles peuvent être soit familiales, une pression familiale, c'est-à-dire qu'on a décidé ou on veut te programmer pour que tu puisses être un champion, parce que tu prendras, tu assumeras financièrement toute ta famille. Tu peux y voir aussi des raisons politiques. On se souvient de Nadia Comaneci. En fait, la pression, elle était politique. Il fallait qu'elle gagne pour représenter son pays.
Tu dois t'élever socialement aussi à travers le sport.
Mais ça peut être ton caractère perso. Et puis, il y en a qui le disent clairement, l'argent. Il y en a qui sont attirés par l'argent.
Je vous rappelle que vous êtes dans les grandes gueules du sport. On est dans votre vestiaire, dans le vestiaire des GG. Aujourd'hui, on se pose cette question. Peut-on détester son sport et le pratiquer au haut niveau après les déclarations de Caroline Garcia qui disait détester le tennis l'année dernière, notamment avant de mettre un terme à sa carrière cette semaine.
Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de nouveaux sportifs qui arrivent sur le plan reconnaissance et reconnaissance sociale et reconnaissance financière. Je mettrai ça de côté parce que j'espère au fond d'eux qu'il y a quand même.
Non mais ce que tu dis, Cédric,
X% de passion.
Bah c'est peut-être t'aimerais que ça soit comme ça.
Non mais regarde,
je dis bien. Hein,
je vais te raconter juste une anecdote. Ce que tu dis, c'est motivation intrinsèque, interne et externe. C'est ce que j'aime, le plaisir, et ce que je peux en faire. Les médias, les réseaux sociaux, le nombre de followers, tout ça. Pour moi, ça sera jamais plus fort. L'externe que l'interne. Tout ce qui est extérieur ne t'amènera pas. En tout cas, c'est pourquoi je fais du sport. Si la question originelle, c'est si je fais du sport pour être heureux, à la fin de l'histoire, il faut renouer avec la motivation.
Sport, parce au que niveau, hein.
de haut niveau.
Tu fais du sport pour être heureux, il n'y a pas de débat.
Non, non, du sport pour être heureux, de bonne santé, en bonne santé classique, il n'y a pas de sujet.
Par déjà, tu es anormal quand tu fais du sport de haut niveau, tu es hors norme. Donc, je ne suis pas sûr que.
Haut niveau, hors norme.
Non, tu es hors norme. Donc, je ne suis pas sûr que tu as cherché quelque chose d'heureux dans le fait d'être hors norme.
Honnêtement, 80% du temps d'un sportif de haut niveau, c'est de la souffrance.
Bien sûr. Oui.
Psychologique,
résilience,
mentale,
souffrance,
exactement.
Travail.
Et oui, ce, par rapport au débat de tout à l'heure, ce qui arrive, quand on revient sur le vélo, hein, quand ce qui arrive, c'est qu'ils ont coché toutes ces cases-là.
Et tu vois le vrai truc, toi, qui me pose question, moi, j'ai jamais été champion olympique, et vu comme c'est barré, je pense que je le serai jamais. Bon. Ce que je veux te dire, c'est que tu sais, quand tu passes le permis de conduire, ou que le brevet des collèges, toi, tu stresses, c'est dur. Quand une fois que tu l'as eu, tu dis, bon, bah, finalement.
T'as stressé pour le brevet, toi?
Ouais, mais moi, je l'ai pas eu, donc je sais pas. Ah. Non, je sais pas. Non, ce que je veux dire, c'est. C'est un exemple qui est peut-être mauvais, Simon. Mais ce que je veux dire, c'est une fois que tu l'as eu, tu vois, ta vie, elle a pas tellement changé. Moi, ce que j'ai remarqué chez certains champions olympiques, c'est que une fois qu'ils sont devenus champions olympiques ou champions olympiques, finalement, bah, ça y est, c'est fait. Et en fait, quand t'as un désamour d'enfance, quand t'as un déséquilibre, un problème, un truc, hormis la partie économique dont tu parlais, Cédric, et tout ça, qui t'a permis de t'enrichir, parce que je pense que Madame Garcia, j'imagine qu'elle s'est bien enrichie, donc tout n'est pas perdu. Elle n'a pas pris de bonheur, mais elle a peut-être pris des pépettes, ce qui est déjà ça de pris. Ce que je veux te dire, c'est que tu reviens jamais à... c'est fait, t'es champion olympique, mais ça ne change pas ta vie, quoi. Ça la change fondamentalement, mais en même temps, en toi, le bonheur initial... Et ça, j'ai vu beaucoup de déceptions là-dessus, sur des gens qui pensaient qu'ils allaient devenir heureux, qu'on allait les aimer plus.
Pourquoi?
Ou des choses comme
parce
ça, et finalement...
En fait,
parce que quels sont les attendus
sur, parce qu'on ne travaille pas sur l'estime de soi, en
et
fait.
Et la partie psychologique.
Mm-mm. Tu vois, tu parles de l'enfance...
Quelles sont les sources de motivation? Est-ce que c'est s'aimer? Toi, c'était pour éviter d'aller à des anniversaires parce que tu étais une grande compétitrice. C'est quoi? Moi, sur tout projet, que tu le prennes sur un plan sportif ou que tu le prennes sur un plan, on va dire, entrepreneurial, c'est quelles sont les motivations derrière? Quel est le but? Où tu veux aller?
On parle de motivation, on ne parle pas de motivation de personnes qui sont expérimentées ou finies, puisque le sport de haut niveau, tu le commences très jeune. Donc, ouais. En fait, pour ta motivation, elle est forcément influencée par quelque chose. Oui. Soit une idole, soit la pression de tes parents, soit un investissement de je ne sais pas trop quoi. Mais tu ne peux pas dire que ta motivation, quand tu commences un sport à 5-6 ans, elle est déjà mûrie comme quelque chose de déterminé.
Mais c'est pour ça que sur la jeune enfance, il faut travailler sur que des notions de plaisir et jouer et essayer de les trouver.
Mais ça, on le dit, hein, le plaisir. Mais alors...
Je vous rappelle le débat dans votre vestiaire des grandes gueules du sport sur RMC, c'est peut-on détester son sport et le pratiquer au haut niveau? La discussion est très intéressante entre vous tous, mais c'est vrai que même nous les médias on a un rôle là-dedans, hein, parce qu'on romantise un petit peu parfois le sport. C'est important que les gamins qui nous écoutent là aussi se disent ce que vous dites là justement, la souffrance ça fait partie du délire en fait. Est-ce que c'est important que les éducateurs aussi passent ce message là dès le plus jeune âge auprès des gamins?
Ce qui est important, c'est de les former et qu'ils connaissent l'envers du décor, ouais. Des éducateurs, je parle bien.
Qui comprennent le chemin
là,
pour y arriver.
Aussi, les souffrances modernes, 100, c'est les réseaux sociaux
sur
et tout.
Sur 100 gamins, il y en a 95, 96 qui vont rester sur le bord de la route. Hein. Faut pas l'oublier. Donc l'usine à champions, du moins les centres de formation, désolé, je vais être cru et méchant, c'est plus des usines à chômage que des usines à champions. Hein.
Moi, je partage pas ce point de vue. Pour moi, si tu veux, le haut niveau, c'est une école. Le dépassement de soi, et aujourd'hui il y a une jeunesse peut-être qui on n'a pas les mêmes références avec Cédric, c'est ce que je et Sarah, parce qu'on est d'une génération un peu différente, mais aujourd'hui c'est le dépassement de soi, c'est le partage, la collectivité, en fait tout ce que la citoyenneté aujourd'hui elle a besoin. C'est pour ça, on en parlait avec Simon la dernière fois, la grande souffrance pour moi de l'héritage des Jeux, c'est qu'on n'a pas réussi à passer ça justement à mon sens, notamment au niveau scolaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de valeurs, il y a plein de choses, il y a plein de partage, il y a plein de dimensions positives. En revanche, la grande difficulté, c'est là je rejoins Cédric, c'est que il y a très peu de champions, donc en fait il y a que de l'échec. Donc si t'as que de l'échec, tu vas forcément être en difficulté, tu vas forcément être en souffrance, tu vas forcément être malheureux. Parce que la finalité, finalement, le plus important, c'est plus les moyens d'évolution personnelle que ça va te donner que finalement la cible elle-même. C'est plus le chemin du haut niveau qui est intéressant.
Quel est l'échec quand tu c'est quoi l'échec? Le niveau d'échec, c'est quoi? C'est tu vas être sportif de haut niveau, tu l'es pas, ouais c'est un échec. Mais t'es un sportif, t'es construit, tu as pu évoluer dans la société grâce au sport, t'as pu t'accomplir. C'est le niveau d'échec, on parle du haut niveau, oui il y a beaucoup d'échecs, mais à travers cette éducation sportive, tu n'es pas que dans l'échec, il y en a beaucoup. Mais c'est ce que je veux dire, où j'arrive pas forcément à être clair, c'est l'échec c'est quoi? Voilà.
En fait,
surtout dans le haut niveau, effectivement.
En fait, c'est moi, je vais te dire un truc, l'échec c'est l'incarnation de l'erreur. C'est pour ça que de pas gagner, ça veut pas dire que t'es une merde. C'est ça le plus dur à comprendre quand tu fais du haut niveau. C'est-à-dire que ta vie, c'est une succession d'erreurs, mais c'est pas un échec. Tu vois, par exemple, Garcia, pour revenir sur son truc, je pense qu'elle a eu peur de l'échec toute sa vie, alors que sa vie, ça a été une succession d'erreurs. Et je vais même te dire un truc. Moi, j'ai compris un truc fondamental sur ce que tu disais sur le Sarah, sur la création de son personnage au départ. Toi, t'avais peur d'aller faire les anniversaires. Moi, j'avais peur de manger tous les gâteaux. Donc, chacun sur sa dimension. Mm-hmm. Moi, ce que je voulais quand j'étais gamin, c'était partir. Fallait partir. Fallait vivre une aventure. Aujourd'hui, tu vois, avec le recul, moi, je suis avec vous. Bah, j'ai mis beaucoup de temps pour être à ma place. Moi, je suis meilleur à parler avec toi que sur un tapis de judo. Bah, tu vois, c'est-à-dire que ma carrière n'est pas un échec parce que aujourd'hui, je comprends que c'est qu'une succession d'erreurs et je suis pas malheureux. Mais ça m'a pris énormément de temps, hein. Énormément de temps.
Peut-on détester son sport et le pratiquer au haut niveau? C'est le sujet du vestiaire des grandes gueules du sport aujourd'hui.
C'est bon, tu me coupes, mais Jordan, c'est 9000 paniers loupés, je crois.
Michael Jordan,
ouais, qui disait que la réussite, c'est X%, mais c'est que des erreurs. Tu ne perds pas, t'apprends.
Je crois que Federer disait la même chose.
Hein, ouais, moi, en ce moment, tout ça vient de l'éducation, en fait.
Exactement.
L'éducation autour de comment tu pratiques ton sport, comment tu vas progresser. Et moi, je mets le mot de petit point estime de soi, c'est-à-dire que ne pas associer la défaite. Enfin, moi petite, j'associe
personnellement.
Ben oui, mais moi, quand je perds, c'est que je suis mauvaise.
Mais non.
Mais c'est pas parce que je n'ai pas intégré le fait que quand je perdais juste un match de tennis. Moi, je perdais. Ben, j'étais pas quelqu'un de bien. Alors, comme au tennis, tu perds une fois par semaine, ça commence à être beaucoup. Donc, où est-ce que tu places la défaite?
Et puis, tu vois, il y a un sujet qui est super fondamental aujourd'hui, qui est très important, c'est la notion de répétition. Tu peux pas devenir championne ou champion sans répétition.
Oui, c'est vrai.
Et si t'es pas en accord avec toi-même dès le départ, c'est que t'es pas en consentement avec toi-même. Et on sait ce que c'est que la répétition sans consentement. C'est du harcèlement. Donc, à un moment donné, le fait de faire un sport à répétition sans l'aimer, eh ben, ça veut dire que tu te harcèles toi-même, en fait.
Non, mais toi, t'as pas eu des moments dans ta carrière où tu dis, j'en ai marre de faire du kumikata.
Mais c'est la notion de consentement avec soi-même. Tu vois, le salut en judo, c'est pas que pour dire bonjour. C'est pour se mettre dans un état de pensée où tu acceptes d'être là. Et au coup de sifflet, tu vois, le haka, pareil, c'est la dimension où tu te dis, je suis ici et maintenant, et j'y vais, j'ai décidé d'être là, et je vais faire les efforts et la souffrance nécessaire, je l'accepte parce que j'ai décidé. Le plus grand harcèlement de la Terre, c'est celui avec soi-même quand t'es pas en accord avec cette décision-là, parce que la souffrance de répéter quelque chose que t'as pas voulu, ça s'appelle la
tournée, mais il faut avoir une grosse droite de force de caractère pour un jeune enfant.
C'est
quand les parents te disent tu vas faire du tennis, tu vas faire du rugby, tu vas faire du judo, et qui te disent tu vas faire ce sport, et qu'il faut quand même un enfant qui a 8, 9, 10 ans. Faut oser dire à ses parents non.
Oui, effectivement.
C'est difficile de le dire à son père, effectivement.
Mais c'est aussi ce que tu dis, Fred, je suis tout à fait en phase avec toi, et je pense que...
Merci, Sarah.
Oui, mais je pense que... On le découvre aussi ces 10 dernières années parce qu'on a des sportifs et qu'on a des paroles libres. On parle de dépression, on parle de burn-out. Oui. Mais à l'époque, c'était des mots au cirque à partir. On c'est les jeux du cirque. C'est-à-dire que t'es un sportif de haut niveau, t'as pas le droit de te plaindre et t'es forcément fort physiquement, mais t'es forcément fort mentalement. Sinon, tu pourrais pas faire de sport de haut niveau. C'était acquis. Sauf que quand on comprend que le harcèlement qu'on s'impose, c'est une souffrance et ce n'est plus un plaisir, c'est pour ça qu'on a des paroles libres où on parle véritablement de sportifs qui ont fait des carrières en étant constamment en dépression. Mais je pense qu'on n'utilisait pas ce terme-là.
Mais avant de parler de burn-out, de dépression, c'était psychologue, c'était asile de fou.
Bah, t'es pas sportif de haut niveau si t'es comme ça.
Non, mais avant, la performance, c'était la souffrance. C'est de te dire, tu veux être sportif de niveau, mais tu vas souffrir.
Non, mais quand tu dis avant, c'est ta génération, par exemple, toi, t'as l'impression que tu pouvais pas te plaindre, tu pouvais pas dire.
Ça se faisait pas, hein.
Non, du moins.
C'était la culture ouvrière et agricole aussi, hein.
Tu vois, j'ai eu des entretiens avec des entraîneurs et on avait des côtés, on est tous différents. Mais de dire stop, j'en ai marre, j'ai besoin de prendre des vacances.
C'est, non mais c'est dur de dire à son coach, de dire à une mauvaise.
C'est-à-dire que si tu laisses ta place, c'est un autre qui la prend et le week-end d'après, t'arrêtes de jouer. Et t'es dans la course à la compétition, à la performance. Au tennis, tu perds un match par semaine. Au rugby, dans le judo, dès que tu combats, c'est l'évaluation. Non-stop à l'entraînement. Et si t'es pas en harmonie, et je rejoins Sarah, si t'es pas en harmonie avec toi-même, sur j'ai perdu, mais j'ai pas le droit de me détester, c'est qu'un exercice que j'ai échoué, il faut faire preuve d'une grandeur mentale, psychologique. Mais moi, combien de fois je rentrais, je me détestais.
je me dis, mais tu veux gagner ta place, tu fais pas les efforts, tes passes de merde, tu fais pas les courses.
Et t'avais pas tort.
Mais après, quel moyen je me donnais? Comment tu, et moi, il y a toute cette
quand tu détestes ton sport, tu finis par te détester toi-même.
Si tu t'aimes pas, comment tu veux qu'on t'aime? Tu t'es comme miroir.
Dans des représentations, et c'est là où Sarah a la raison, dans des représentations, je te prends juste un exemple. Le premier Français champion du monde de judo, c'est Jean-Luc Rouget. 1975 à Vienne. À l'époque, ils étaient partis en 68 au Japon, 6 mois. La moitié de l'équipe revient, ils sont tous médaillés olympiques et mondiaux parce qu'ils ont été dans la résilience, c'était les survivors, tu vois. Les autres, fini, plus jamais on en a entendu parler, voilà.
On a construit un récit, il faut que ça marche comme ça.
Bah, le premier Français champion du monde, il s'est bâti autour du mythe de la résistance à la souffrance. Ça veut dire que nous, dans le judo, toutes les années suivantes, elles ont été articulées, qu'on le veuille ou non, autour de ça parce que ça avait marché. Donc on a forcément perdu des diamants qui avaient besoin d'autre chose. On a forcément perdu peut-être des gens fragiles psychologiquement. À l'époque, on parlait pas de psy. Ah. Donc, si tu veux, il y a aussi cette culture-là de ta discipline, de ton sport, des croyances.
Fred, t'as dû l'entendre. Si tu souffres pas, t'y arriveras pas. Je sais pas si tu l'as entendu lors des entraînements.
Et je le lis beaucoup sur le WhatsApp, hein. Ben d'ailleurs, ouais. Je vous rappelle au 06 12 424 424.
T'es pas prêt à souffrir.
Beaucoup d'auditeurs tu à me dire pas. La souffrance fait partie du plaisir du sport.
Oui, mais dans la souffrance, il y a du plaisir. Dans le plaisir, il y a de la souffrance.
Et puis après,
mais
il y a des sports. Regardez la sémantique. Il y a des sports où on dit jouer à.
Oui.
Et il y a des sports, on ne dit pas jouer. Est-ce qu'on va jouer au judo?
Ah bah je te garantis.
On pratique.
On joue, on pratique. Mmh. Est-ce que tu vas jouer à la natation? Donc en fait, dans cette sémantique-là, il y a des disciplines où le terme même jouer n'existe pas en fait. Donc c'est compliqué de se réaliser en ayant du plaisir, en disant que c'est un jeu, si même dans la sémantique... Tu vas pas jouer.
Et on le dit tous, c'est un jeu. Restez des joueurs, restez des enfants.
Et pourtant, ce qu'il faut toujours rappeler pour moi, et puis après les camarades, ils diront, mais faites-le quoi.
C'est-à-dire que malgré tout,
toi Cédric ce matin, j'ai vu au café, j'ai dit ah tu fais quoi? Je savais même pas qu'il venait du rugby pour te dire le lignard que j'avais pas reconnu. Je suis un loser.
Il m'a regardé, envoyé sur le groupe.
Il m'a dit mais casse-toi de ton quart, tu sais pas que je suis.
Je vais tourner le dos.
Après j'arrive et tout le monde m'éjotait, mais moi je dis putain, je l'ai pas reconnu le mec. La honte de ma vie, et aujourd'hui j'ai la chance de le rencontrer. Non mais c'est vrai, en plus je me suis dit depuis tout à l'heure, je suis vraiment un tocard, je l'ai pas reconnu tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que c'est extraordinaire le haut niveau.
Bah, bien sûr.
Mais par contre, c'est comme tout.
Il faut tout essayer.
Oui, tous les sacrifices, tout mettre de côté pour y arriver. S'il y a une petite chance d'y arriver, mais...
Et même, on s'en grandit, quoi qu'il arrive.
Ouais, mais lancez-vous, parce que quoi qu'il arrive, tu seras un homme, une femme, tu seras un être humain accompli, parce que tu auras vécu. Et puis,
des choses extraordinaires.
Sarah, je pense que tu penses la même chose que moi. Au moins, tu auras essayé, tu ne seras pas... à te dire, et si j'avais.
Ouais. Et oui.
Bon, c'est passionnant, non, Simon, hein,
on vous a fait pleurer ou pas?
Je me suis effacé, je suis resté à la porte du vestiaire. C'est passionnant, non, mais je souscris à tout ce qui a été dit très rapidement. Je pense qu'il y a une dimension psychanalytique, quasi freudienne, chez certaines championnes et certains champions, en effet, qui ont accompli des carrières immenses, mais uniquement... pas sur la projection que leurs parents avaient d'eux et ont beaucoup souffert. Je pense aux sœurs Williams notamment. Je pense même à un Tiger Woods qui s'entraînait comme un GI avec son père ancien militaire. Mais moi, je me souviens, c'est juste pour conclure, il y a une dimension quand même un peu émotionnelle. Je pense que vous avez laissé à la porte. C'est Laure Manoudou qui résumait. Elle disait dans sa biographie ou à la fin de sa carrière, elle dit « J'ai toujours détesté nager ».
Oui.
En revanche, j'ai toujours adoré gagner. Et ça, je pense que
c'est pour ça que la source de motivation.
C'est du sport
dans des professions. Hein.
Les amis,
j'ai un pote à moi, Cédric Bosvelt de l'Institut Paul Bocuse. Il me dit, mais tu sais, en cuisine, on n'est peut-être pas des sportifs, mais on nous répète à longueur de journée, si t'en chies pas, t'y arriveras pas.
C'est ça. Bah, parfois, il y a des cuistots qui disent, j'en ai marre de faire les omelettes. Mais je vais quand même en faire.
Voilà, exactement.
Merci, c'était passionnant. Franchement, les GG, là, peut-on détester son sport et le pratiquer au haut niveau? C'est votre rendez-vous. Et vous maintenant, le vestiaire, à chaque fois, tous les week-ends, à 11h dans les grandes gueules du sport. Tout de suite, vos grandes gueules du sport, après cette livrée, elles vont passer par-dessus la troisième corde. Les catcheurs sont-ils des sportifs? Les superstars sont à Paris, sont en France. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Sarah Pitkowski, avec Fred Le Canu, Cédric Aymant, Simon Dutin, on continue de parler du vestiaire. Là, il y a quelques instants, peut-on détester son sport au haut niveau? J'ai même reçu un message de Jérôme Coppel, vous savez, notre membre de la Dream Team Vélo, qui me dit évidemment. Donc ça fait réagir également sur notre.
C'est marrant, ça résonne comme un cri du cœur, ça.
Ah là, c'était un cri du cœur. C'est un cri du cœur. Je vous rappelle notre WhatsApp 0612 424 424 et le 3216, comme d'habitude. Dans un instant, les jojos du sport. Quel GG connaît le mieux le sport, évidemment, mais d'abord, ben oui, la cloche, c'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter soit 1000 euros, soit la totale de la rentrée, un MacBook Air, une console Nintendo Switch 2, une montre connectée Garmin, un abonnement annuel à Ligue 1+, un séjour Lagrange Vacances d'une valeur de 1000 euros, ou même la super totale, hein, carrément, avec 10 000 euros en plus. Envoyez coffre au 732-16, coffre au 732-16, vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Mais d'abord, tout de suite, le catch américain prend ses quartiers en France ce week-end.
Oh, il n'a pas attendu longtemps pour passer à travers les corps son adversaire et même Dylan Brosa qui vient d'être projeté par-dessus la troisième corde. Oh, cette relance aussi envoyée par Marc-André Houssin par-dessus la troisième corde.
Wouh, RMC, les GG sur le buzzer.
Pour la deuxième fois de son histoire, la WWE, la plus grande fédération de catch du monde, revient sur le sol français. Hier soir, c'était la folie à Lyon. Il restait encore deux shows ce dimanche et lundi à la Paris La Défense Arena. Les plus grandes stars sont là, hein. John Cena, Randy Orton. Grosse hype en France, hein, cette question, les GG. Les catcheurs sont-ils des sportifs? On vous attend au 32-16. On a aimé la musique pour les fans de catch. C'est vrai que c'est la musique de qui, ça?
L'Undertaker.
L'Undertaker.
Ah, on a des fans de catch, là.
Ah ouais, moi c'est mon enfant, ça.
Alors, vous n'êtes pas d'accord, hein. J'ai deux oui, Simon et Fred. Deux non, Cédric et Sarah. Tiens, on va commencer par toi, Fred. Parce que quand même, c'est toi représentant des sports de combat, ouais, autour de la table. Est-ce que les catcheurs sont des sportifs?
Ce sont des sportifs comme les pompiers.
Qui sont des sportifs?
Qui sont des sportifs, c'est-à-dire que ce sont...
Alors là, la comparaison, je l'avais pas, celle-là.
Oui, vas-y, c'est mon métier, t'écoute. C'est mon métier de te surprendre, ça.
Eh ben
écoute,
là, c'est fait,
développe. Je vais développer, c'est très simple.
Catcheur égale pompier, je
l'ai... Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit.
Pas dire que les pompiers sont des catcheurs.
C'est pas du tout ce que j'ai dit. La question, est-ce que ce sont des sportifs? La réponse est oui. Les pompiers aussi sont très sportifs, les militaires sont très sportifs, il y a des gens dans leur métier qui sont très sportifs. Ouais, c'est le cas des catcheurs. En revanche, est-ce que le catch est un sport? La réponse est non, c'est un spectacle. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'incertitude. L'une des bases de pourquoi, par exemple, il faut regarder le volley entre la Chine et la France dimanche, c'est l'incertitude de la victoire. Tu vois, c'est ça qui nous excite. Donc, à ce moment-là, j'ai envie de te dire tout simplement, ce sont des sportifs, mais le catch n'est pas un sport. Il n'y a pas d'incertitude, c'est un scénario. D'ailleurs, très bien fait, puisque ça a permis notamment à la télévision de mieux filmer. Comme tu sais que ça va sur les cordes à ce moment-là, tu vois, avec la petite zoomette, tu vois, justement, tu parlais de zapette, il y a le zoom, des zooms, zoom, tu vois, pour donner encore plus d'amplitude au côté spectacle du catch qu'on retrouve pas en judo, par exemple, parce que tu sais pas où le hippon il va avoir lieu. Donc tout ça est un spectacle. Alors la grande question de Roland, c'est est-ce que le MMA est un sport? Puisqu'il n'y a pas de, on ne protège pas son adversaire, on doit le détruire. Donc du coup, comme on n'est pas dans la précaution de l'autre, est-ce qu'on est encore dans le sport ou est-ce que là aussi on est dans le spectacle?
On a les droits, c'est un sport. Cédric,
moi je suis d'accord, ce sont des sportifs parce qu'il y a une préparation, ce sont des athlètes. Mais après, je me suis perdu. Mais est-ce qu'après c'est...
Tu disais que tu étais d'accord avec Fred Le Canu.
Voilà,
je suis 100% d'accord avec Fred.
Exactement.
Et mettez que ce vous l'aimez sur le WhatsApp.
Mais la dimension spectacle, elle est trop... Alors pas trop, parce que j'adore ça. Mais elle est prononcée, du moins c'est établi, c'est régi. Il y a des codes entre eux. Mais c'est des athlètes, ils sont préparés les mecs. Donc oui, est-ce que c'est...
Oui, non mais alors attendez. Si je vous prends à ce petit jeu, j'étais pas du tout là-dessus. Un joueur de pétanque, c'est un sport.
Oui.
Pourtant, bah on
oui.
va pas dire qu'il soit préparé physiquement.
Non, mais mentalement,
tu vas te remettre à ta place.
Psychologiquement, mentalement, enchaîner.
Oui, non, mais attends. Avant de dire que les sports statiques sont de véritables performances sportives, c'est comme les échecs, c'est comme le bridge. C'est-à-dire que on en rigole doucement. Tu vois ce que je veux dire? C'est un autre type de préparation.
Toi, tu en rigoles doucement. Tu te laisses toute seule dans ton truc. Vas-y.
On est dans les micros. Non, mais ça vient de me faire réagir. C'est-à-dire que là, tu compares parce qu'il se prépare physiquement, oui. Mais donc il y a plein d'autres disciplines qui sont des sports, mais tu ne te prépares pas physiquement.
Mais je vais même te changer, je vais même prendre ton argument à l'envers. Moi, j'ai travaillé dans le monde du fitness. Je connais des personnes du quotidien qui s'entraînaient plus dur que des sportifs de haut niveau. Moi, j'ai vu des gens en RPM, ce qu'on appelle le RPM, tu sais, c'est oui. le vélo, machin et tout ça. J'ai vu des gens qui se faisaient plus mal que des gens qui étaient dans une récurrence de sportif.
Donc,
de niveau,
en
dans
fait, un... sportif, ça veut dire performance?
Non, ça veut dire faire du sport. Ça veut dire faire du sport. Donc, les catcheurs sont forcément des sportifs, puisqu'ils oui, bah, exercent leur corps.
Alors, c'est quoi la définition d'un sport?
L'incertitude.
Oui,
ben oui. Ben Fred l'a rappelé, c'est l'incertitude, bon. tu n'as pas la certitude du résultat final, mais comme les maîtres nageurs sont des sportifs, comme oui. Beaucoup de métiers, un danseur, le premier ballet sur Casse-Noisette, c'est un sportif immense. Je veux dire, les danseurs de ballet.
Mais il y a une performance, elle n'est pas classifiée, mais là c'est
connais,
en l'occurrence c'est une performance.
Oui, mais tu connais.
Oui, mais le catcheur, c'est des performances. Va soulever un mec.
Ah moi, alors pardon, je ne viens pas de cet univers-là. Alors moi le catch, mais je peux pas. Quoi. Mais, voilà. Alors, je peux pas. Là, mon cerveau, il comprend pas.
Regarde un match, entre guillemets, mais je veux dire,
un match,
tu parlais
un combat.
Du saut de la corde à linge. Je veux dire, c'est. Il y a une dimension.
J'arrive pas à trouver ça sérieux.
C'est pas le saut, c'est le coup de la corde à linge.
Mais tu sautes depuis la troisième corde.
Mais tu vois,
la performance athlétique,
tu n'as pas la remettre.
Tu peux pas la remettre en question.
Puis leurs tenues sont totalement ridicules.
Mais non,
moi, je connais très mal la nouvelle génération. Enfin, les stars actuelles, je connais John Cena parce que bah, voilà, il dépasse le cadre de sa discipline, mais moi je me souviens des Bret Hart, Shawn Michaels, Yokozuna, Shawn Michaels, et c'est des mecs qui ont failli finir en fauteuil.
Ah,
hein,
oui. Ah, oui.
Des
hernies
discales qui ont eu les disques.
Vous vous rendez pas compte, mais Cédric Clément, c'est un fond total.
Il vient de se jeter du plateau. Tu sais pourquoi j'aurais pu commenter le catch, et d'ailleurs je suis prêt à le faire, mais tu sais pourquoi je suis pas à l'aise? Parce que techniquement, il n'y a rien qui marche. S'il n'y a pas l'acceptation.
Attendez,
genre là, les mecs, ils sont vraiment tombés dans le truc du spectacle. Les mecs, ils connaissent que dalle.
Jordi, grand fan de catch, qui nous appelle au 32-16. Tu entends ce débat animé, Jordi. Salut. Est-ce que les catcheurs sont les sportifs? Salut.
Oui, bonjour. C'est vrai, c'est très, très animé, là, chez vous.
Bon, raconte-nous. Bah oui, c'est animé. C'est les grandes gueules du sport. C'est comme ça.
Ouais, c'est ça, c'est le jeu.
Ça, pour toi, c'est les sportifs?
Oui, alors bon, déjà, je voulais vous remercier déjà de mettre en lumière cette discipline, car je ne sais pas si vous en avez conscience, mais il y a énormément d'ampleur et énormément d'engouement en France sur le catch, pas uniquement sur la WWE, hein, donc parce que c'est de ça qu'on parle, hein, ceux qui viennent ce week-end en France. Il y a aussi énormément de catcheurs, de très bons catcheurs et de très bonnes fédérations en France, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, effectivement, bon, le catch ça a toujours été très clivant, hein, très très clivant. Certains adorent, certains détestent. Mais ceux qui adorent, en fait, ils aiment ça. Pourquoi? Ils aiment parce que c'est un spectacle, parce que c'est des histoires, des décors, des costumes, des personnages.
Bah moi, je vais au cinéma dans ces cas-là.
Oui, mais on t'a pas dit que c'était pas du cinéma. On a demandé.
Ah oui, mais c'est
même le cinéma ou
c'est du cinéma live. Si tu dis
pourquoi tu n'aimerais pas regarder ça?
Ben, je sais, peut-être que je changerais d'avis si j'allais, mais alors là, ouais, parce que tu parles,
tu dis
c'est clivant.
Allez, on
c'est
y va, je t'amène,
soit on
tu vas voir
les
beaux athlètes.
Moi, je vais te répondre pourquoi j'ai du mal à regarder, pour reprendre l'élément tout à l'heure technique, c'est que ça ne fonctionne pas. Parce que t'as des contrôles d'épaule, t'as des projections de face.
Mais t'es puriste, tu compares ça au judo.
Non, je compare ça à la notion d'efficacité. Eh, écoute-moi, quand tu fais une aile de pigeon dans le dos en faisant des trucs comme ça, avec des coups de boule à 3 mètres, en faisant des... c'est des trucs de comptoir, je veux dire, à un moment donné.
Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois une notion de spectacle, de performance, de chorégraphie.
Oui.
De...
Et pas d'efficacité.
Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, je vous préviens.
Moi, je vois des mecs voler en l'air. Ouais. C'est génial.
Si vous avez la Paris, la Défense Arena ce soir, pas impossible que l'homme
qui le masque soit Frédéric Evensin. C'est des chansons, les mecs.
Le catcheur, à fond. C'était passionnant, les amis. Bah ouais, on n'est pas tous d'accord. C'est souvent clivant, hein, le catch. Vous faites peur. Que personne ne prenne une chaise pour la projeter sur l'autre. S'il vous plaît, restez assis. D'autant plus que dans quelques instants, vous allez vous affronter. Là, vraiment.
Il n'y a pas de question catch, parce que là, je suis aussi out. Hein.
Dans les jeux du sport, c'est notre quiz pour terminer les grandes gueules désormais. A tout de suite, tu vois, c'est...
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Avec Fred Le Canu, avec Sarah Pitkowski, Cédric Clément, Simon Dutin. Là, c'est du grand spectacle, hein, je vous dis. C'était du catch il y a quelques instants, mais là, les choses sérieuses commencent. C'est les jeux du sport.
RMC, les jeux du sport.
C'est votre quiz désormais dans la grande gueule du sport. Je vous explique, hein, au cas où vous n'étiez pas là la semaine dernière, c'est du 2 contre 2 et vous allez défendre un auditeur. On a réparti les équipes ce matin avec Max Abolin, notre producteur, Sarah Pitkowski avec Cédric Emence, Simon Dutin et Fred Le Canuant.
On lâche rien.
On accueille
culture générale.
Je ne sais pas, mais je te laisse sous le rugby.
On accueille nos auditeurs, Guillaume et Christophe. Salut messieurs.
Bonjour.
Guillaume, c'est toi qui as appelé en premier, donc tu peux choisir ton équipe, Sarah et Cédric ou Simon et Fred.
Attention, si tu as gagné.
Simon et Fred.
Je te comprends. Je te comprends. J'aurais fait pareil.
Donc pour Guillaume et Christophe.
Mais nous on lâche rien.
Avec Sarah et Cédric. Je vous rappelle qu'il y a une enceinte évidemment mini 10 de Lexon à gagner. Je vous rappelle les règles. Donc c'est des questions de culture sport. Hein. Il y a des records, il y a des archives. C'est comme le trial poursuite. Vous tombez tout le temps sur la case orange. Allez les amis. D'abord question pour les GG. Je rappelle Simon et Fred et Sarah et Cédric. Vous êtes ensemble. Question d'actu. Plusieurs réponses sont acceptées. Adrian Manarino s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'US Open à 37 ans. Un seul autre joueur français avait déjà réussi cette performance à cet âge. Qui ?
Gaël Monfils.
Gaël Monfils. Sarah, bien joué. Un voilà. Point pour l'équipe Sarah et Cédric. Question de rapidité, les GG. Une seule réponse. Où se déroule le Grand Prix de Formule 1 demain?
Pays-Bas.
Simon, un
les
partout. Les oranges, un partout. Mmh. Ça, Simon, là, ça, il est arrivé, il fait son premier jeu. Il ne cligne pas des yeux depuis le début du jeu. Question auditeur, Guillaume et Christophe, c'est pour vous. Avant de donner votre réponse, dites Guillaume et la réponse, par exemple, ou Christophe et la réponse derrière. Comme ça, on sait qui part en premier. Question d'Eurobasket. Quel sera l'adversaire des Bleus aujourd'hui?
Guillaume. La Slovénie.
Oui, bon, Guillaume.
Bien joué, Guillaume. Ça fait.
C'était bien. En plus, c'est ce qu'il faut regarder avec Simon. On est dans la ligne éditoriale. Tout est correct.
Tout est correct. Question de rapidité. Mais j'ai une seule réponse est acceptée.
Une seule réponse.
Une seule réponse. C'est-à-dire qu'une réponse et vous êtes dehors.
Ok.
Quel Français a battu au premier tour de l'US Open Daniel Medvedev?
Bonjour,
on l'a dit tout à l'heure. 3-1 pour l'équipe du Tin Le Canu. Question à propos du 9GG. Connaissez-vous bien les GG? Ah, ça, je vous préviens, on va faire ça à chaque fois. Question Denis Charvet. Plusieurs réponses sont acceptées. Denis Charvet, qu'on retrouvera d'ailleurs samedi prochain dans les grandes gueules du sport. Le premier qui a la bonne réponse gagne. Combien de points a-t-il marqué avec les Bleus?
35.
C'est moins.
28.
C'est moins.
27,
Cédric. C'est bon, on vient jouer. Cédric, là. Cédric, on sent qu'il y avait une.
Vous savez quoi, j'ai toujours pas compris la question.
C'est pas un multiple de 5, ça veut dire qu'il a, il a marqué une pénalité.
Combien de points a-t-il marqué avec les Bleus? 27. Je pensais que c'était vachement plus, moi.
T'en as marqué 27?
Non.
Denis.
Denis, j'ai pas compris la question.
Je t'ai dit, Denis Charvet, il faut écouter les questions.
Je comprends pas toujours.
Voyons.
C'est pas grave, on a quand même gagné le point. Bravo, Cédric.
Ça fait 3-2 pour l'équipe du Tin Le Canu. Question pour vous, les auditeurs, Guillaume et Christophe. Vous dites votre prénom avant de donner la réponse. Qui est le nouveau joueur appelé par Didier Deschamps avec les Bleus cette semaine?
Guillaume.
Akliouche, bien joué. Il faut se réveiller, Christophe.
On a besoin de toi, Christophe.
Pourtant, il est pas trop tôt. Hein. Il est 11h52. A priori, là, on estime que vous êtes alors.
C'est l'apéro.
À consommer avec modération. C'est plutôt l'heure du brunch, notamment. Stephen Brunch pour trouver tous les dimanches pour les meilleurs brunchs sur RMC de 13h à 15h. Question de rapidité. Question à élimination, les amis.
Ça veut dire quoi, question à élimination?
C'est-à-dire que chacun, vous allez répondre à tour de rôle.
Ah, ok.
Le premier qui fait une erreur est éliminé. Donc c'est pas pour le coup un jeu par équipe. Hein. Mais en revanche, le dernier survivant marque pour son équipe. Je veux que vous me donniez, s'il vous plaît, les Français ayant atteint le top 10 à l'ATP. Les Français dans l'histoire ayant atteint le top 10 à l'ATP. On commence par toi, Sarah.
Yannick Noah,
c'est bon. Fred.
Mon fils.
Gaël, mon fils, c'est bon. Cédric Emence.
Guy Forget.
Il a été quatrième. C'est bon, Cédric. Simon.
Henri Lecomte,
il a été cinquième. C'est bon. Premier tour de table réussi, les amis. Sarah.
Gilles Simon,
c'est bon. Il a été sixième.
Julien Prêt. Bento.
Julien Beneteau a-t-il été dans le top 10 de l'ATP? La réponse est non.
Ah, mais quel dommage, pourtant il le terminé. Dit à chaque fois. Mais s'il le dit,
éliminé,
j'appelle la barre.
Fred, tu ne peux pas répondre. Cédric.
Santoro.
Fabrice Santoro est-il dans le top 10? Non, Fabrice Santoro n'est pas dans le top 10. Il ne reste plus que Simon et Sarah. C'est un tête-à-tête en plus. Vous n'êtes pas dans la même équipe. Simon.
Songa.
Joe Wilfried Songa, bien sûr, cinquième, ça marche.
Richard Gasquet.
Sarah. Richard Gasquet, septième. Oh là là, c'est très très chaud. Simon. Attention, une erreur était dehors.
J'hésite entre deux Arnaud.
Fais-toi confiance.
Arnaud Clément.
Arnaud Clément, dixième. Oh là là, ça passe.
Ouh, c'est
bon. C'était large, mon ami.
Sébastien Grosjean.
Sébastien Grosjean, quatrième, bien sûr, comme Guy Forget. C'est bon, je vous préviens, il en reste plus que trois.
Tu les as.
Simon.
Arnaud Butch.
Arnaud Butch, c'est pas bon! C'est pas bon dehors, Simon!
Il restait Cédric Pioline.
Il restait Cédric Pioline. Il restait Thierry Tulane, dixième. Et Lucas Pouille aussi. Ça veut dire que, attention, l'équipe est
Sarah Cédric. Je peux rentrer revient. À la maison. J'ai eu peur.
À 1 point. 4-3 pour l'équipe du Tarn Le Canu. Question de, rapidité. Une seule réponse, les GG. Quel Français a porté le maillot de leader de la Vuelta cette semaine?
David Gaudu.
David Gaudu. Égalité.
Christophe, allô, Christophe.
Une dernière question. Question de rapidité. Là, c'est la balle de match. L'équipe qui trouve a gagné.
Ah non, non, non. Ah.
Si, ouais, tu non, t'énerves pas, Cédric, tu gardes nos questions rapides. Tu t'énerves pas.
Beaucoup trop chaud, Cédric. Quel trail se déroule actuellement? Maxime Abolin, Régine Entreprendre.
T'es fou, toi. Je sais
Sarah Pitkovski.
Oh, je sais où t'habites. Je sais où t'habites. Je peux te dire que c'est fini. Tu rentreras pas chez toi.
La victoire de la team.
Je te raconte pas,
c'est
une honte.
Et non, c'est donc Christophe. Toi, si tu veux. Christophe, c'est toi qui remporte. Donc, une enceinte Bluetooth, Minodis Electron.
Je veux prendre la parole en public.
Félicitations, Christophe.
Déclaration de presse.
Merci, Sarah. Merci, Sarah.
Merci beaucoup.
Avec une belle victoire. Profite bien.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Merci les GG du sport, vous avez été très bons.
Merci.
Ce matin,
on se retrouve. Bon samedi.
Comment une question, c'était ta première le week-end dernier.
Oui. Week-end dernier. Ouais.
Il a chanté Kirino pour sa
première. Non,
non, non. Qu'est-ce que tu veux que je te chante? C'est n'importe quoi.
Non, non, mais
jamais. Tu vas être sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Voilà. C'est bon, ça passe.
Je suis scotché.
Je sais pas en plus si j'aimerais bien être un oiseau en y réfléchissant bien.